Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, on va parler d'écologie, on va parler de vacances scolaires, on va parler de deuil, on va parler de plein d'autres trucs. Mais tout d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parfaitement ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, c'est l'heure de la case de Seb. L'émission qui parle truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, je l'ai déjà dit. Et je ne suis pas tout seul ce soir puisque je suis avec Corentin que vous avez déjà entendu il y a quelques temps. Et je suis accompagné de Lise mais qui va pas forcément parler au micro. Elle est tétanisée devant son micro. Salut Corentin.
Salut Seb, merci pour l'invitation.
Mais de rien, tu es le bienvenu quand tu veux. J'en profite pour le redire à tous les auditeurs, si vous avez envie de venir dans la case de Seb, eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous me contactez directement sur l'adresse mail de la radio, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, j'ai pas d'autres réseaux sociaux parce que j'ai déjà beaucoup. Et puis si vous avez envie de parler de votre meilleur BD ou simplement juste venir faire un coucou, voir comment ça marche la radio, la porte de l'émission est ouverte. J'en profite également pour reparler de l'Angers Geek Fest qui va avoir lieu le week-end prochain. Je réalise à peine en fait que c'est déjà très très bientôt. Je serai présent avec mes deux émissions. Je serai présent avec la case de Seb, je serai présent avec les voix du scénarium. Les places qui étaient à gagner ont été gagnées, donc ne me respammez pas sur les réseaux sociaux pour gagner des places, ça sert plus à rien. Mais n'hésitez pas à venir me voir quand même. Je serai sur place pour vous parler de deux choses. Déjà, échanger avec vous sur vos meilleurs BD, alors comics ou manga, hein, je suis pas sectaire, qui sont de la thématique dystopique ou utopique, qui sont les thématiques de cette édition, je ne sais plus parler, de l'Angers Geek Fest. Et puis pour les voix du scénarium, je vous ferai un jeu de rôle en cadavre exquis, c'est-à-dire que chacun viendra mettre un tout petit bout d'histoire dedans, en partant d'une situation donnée. Voilà. On commence par quoi ? Est-ce que tu veux te lancer direct, Corentin, ou est-ce que tu veux prendre le temps de la température et puis laisser monter le stress ?
Oh, le stress, pour l'instant, ça va. comme tu veux, moi, je suis partant pour commencer. Si...
Eh ben, vas-y, sous le feu des projecteurs qui ne sont pas là. Je te rappelle une règle très simple, en fait, quand tu parles en public, alors c'est vous pour la radio aussi, c'est-à-dire que tu imagines tous les auditeurs en slip, ce qui est forcément plus facile puisqu'ils sont souvent chez eux ou dans leur salon, plus rarement en voiture.
Pas mal l'image. Voilà. D'un coup, le stress, il descend d'un coup.
Ah bah c'est ça, tout le monde se met en slip un jour.
Ok.
Allez, c'est quand tu veux.
Bien sûr. Du coup, pour un peu présenter ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite chronique sur une BD qui s'intitule Le Mirage de la Croissance Verte. Donc, je vais pouvoir expliquer un peu qu'est-ce que contient la BD. Et à la suite de ça aussi, donner mon avis sur qu'est-ce qui m'a plu ou qu'est-ce qui m'a aussi un peu moins plu. Voilà. Donc tout d'abord, je vais juste vous présenter vite fait un peu la BD. Donc,
j'en profite juste. Alors, à mon avis, tu vas forcément être à l'aise avec ça au départ, mais je vais intervenir peut-être un petit peu juste pour signaler que c'est une BD dont on a déjà parlé l'année dernière en fait dans l'émission, parce que c'est pas une BD de cette année, et que c'est aussi l'occasion d'avoir un autre avis. Un avis de quelqu'un qui est un peu moins lecteur de BD, mais qui est certainement un peu plus technique que moi sur la partie écologique et de ce qui est dit dans le bouquin.
Sûrement.
Moi, j'ai été de manière béotienne à mort, et j'en suis ressorti vachement intéressé. Et du coup, toi, c'est
C'est plus technique.
C'est ta formation déjà.
C'est donc, ça, tout à fait. Et puis aussi un peu mon emploi. Vu que c'est en lien avec l'environnement.
Effectivement aussi, ouais. Eh ben, je te laisse la parole. Je vais essayer de pas te couper parce que je sais que quand l'élan est parti, des fois c'est.
Ouais. Ok.
C'est comme quand tu commences un marathon, si on te fait un petit croche-patte, c'est dur de repartir. Là.
C'est ça.
On veut éviter les croche-pattes. Je Merci. T'en prie, fais-toi plaisir.
Merci. Du coup, le mirage de la croissance verte. Donc, a été écrit et dessiné par Anthony Auffray, donc de l'édition Delcourt et de la collection Octopus, et il est paru en mai 2022. Donc, pour vous expliquer un peu qui est Anthony Auffray, donc c'est un auteur français breton, donc moi qui suis d'origine bretonne, ça me plaît bien aussi. Et en tout, il a écrit trois BD, donc celle-ci qui est la plus récente, et également deux tomes de la collection des archéologues interdits, donc depuis 2017. Et sinon, concernant Anthony Auffray, j'ai pas plus d'informations, ni même sur pourquoi est-ce qu'il a écrit la BD. Donc, ça aurait été peut-être intéressant si j'avais eu suffisamment de ressources pour savoir pourquoi est-ce qu'il a écrit ça. De mon explication propre, ce serait suite à la montée en puissance des paroles des politiques liées à l'environnement. Il s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour écrire cette BD.
Ouais, alors ça peut aussi être une BD de commande, c'est-à-dire que l'éditeur avait besoin de parler d'écologie, il s'est dit tiens j'aimerais bien avoir cet ouvrage. Après effectivement comme tu le dis, il n'y a que l'auteur qui pourrait nous le dire lui-même.
C'est ça. Donc maintenant je vais aller plus en détail sur la BD. Donc cette BD elle a été découpée en 8 parties et nous avons 3 personnages principaux donc qui sont Arnaud et Caroline, donc c'est un jeune couple, ainsi que Doc. Donc Doc c'est le père de Caroline. Donc tout d'abord, il y a une petite introduction pour expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer dans la BD. Et on nous explique que c'est suite à la convention du climat, donc qui a été faite en avril 2019, que Emmanuel Macron, notre président, mène un discours sur les remontées, les propositions faites durant cette convention. Et que du coup, comme une partie de nous, les Français, Arnaud et Caroline écoutent ce discours en ayant l'impression que le fait d'investir dans les énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique, ça va permettre de diminuer l'investissement dans les énergies fossiles et ainsi contribuer à lier économie et environnement, puisque on se dit que en redonnant l'économie sur des énergies renouvelables, peut-être que nous allons perdre de l'argent et que du coup, c'est pas viable.
Pas faux.
Et du coup, toujours dans cette introduction, Doc, le père de Caroline, revient du futur complètement paniqué en disant que c'est une catastrophe et que si on écoutait ce qui venait de se passer suite à la convention du climat, il n'y aurait plus de futur possible. Ce qui serait totalement ballot. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, Arnaud et Caroline se disent, non, il y a des engagements qui vont être pris, donc ils comprennent pas pourquoi il n'y aura pas de futur possible. Donc tout d'abord, il y a une partie sur aussi la croissance, donc le PIB. Donc, pour les petits cours de collège et de licence, le PIB, c'est le produit intérieur brut. Donc ça, c'est pour les futures personnes qui vont passer le bac, si ce n'est pas fait.
Prenez des notes en même temps.
C'est ça, voilà. Et dans la BD, PIB aussi, c'est un robot assistant qui est spécialisé sur les questions écologiques. Donc c'est un robot qui est assez drôle parce qu'il se nourrit essentiellement de pétrole. Donc la BD est sur le thème environnemental.
Il y a un côté paradoxal.
Totalement, ce qui est aussi très drôle.
C'est clair.
Et du coup, ce PIB-là, donc là je reprends sur l'initial produit intérieur brut et non le robot, c'est un indice de référence de croissance de chaque pays, donc qui permet justement de mesurer la valeur de tous les biens et services produits dans un pays. Donc c'est un signe de richesse d'un pays, plus le PIB est important, plus le pays est riche.
Ok.
Donc voilà pour situer un peu. Pour toujours un peu aussi parler de PIB, il y a aussi des inconvénients par rapport à ce PIB. Notamment, il ne prend pas en compte les origines de richesse d'un pays. Donc notamment entre les activités utiles comme les activités liées à de la médecine ou des activités un peu floues comme homme d'affaires. On ne sait pas, on ne sait pas d'où vient l'argent. Est-ce que c'est légal ou pas très légal, mais en tout cas,
ça rentre pas dans le PIB.
Ça rentre justement dans le PIB, mais en fait, on ne connaît pas l'origine de la richesse d'un pays. Il y a quand même des parties qui sont assez floues. Donc ça permet un peu de comprendre que c'est pas parce qu'un pays est très 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 riche que tout l'argent qui lui revient est totalement légal.
Donc, ok, voilà. Ok, je comprends.
Également, ce PIB, il prend pas en compte le partage des richesses, donc entre les personnes riches et personnes pauvres. C'est pas parce qu'un pays est très riche qu'il n'y a pas de pauvreté.
En général, en plus, c'est dans les pays les plus riches où il y a les plus grands écarts.
Aussi. Donc voilà, le PIB, c'est quelque chose d'assez flou et c'est un indice qui, pour certains, n'est pas forcément un indice. De plus que le PIB, en termes environnemental, il n'est incapable de donner une valeur économique à la nature. C'est-à-dire que s'il y a la présence de zones protégées dans un pays, de protection des espèces ou si un pays est dépendant à une énergie fossile, eh ben, ça ne va pas mesurer l'impact environnemental de ce pays en général. Donc, c'est-à-dire qu'un pays peut être très riche et avoir un impact environnemental catastrophique, mais dans l'autre sens, un pays avec un petit PIB, mais qui protège énormément ses ressources sur place.
Ok.
Par exemple, si on peut prendre les pays scandinaves, ils ont un PIB inférieur au nôtre, et pourtant c'est eux qui sont les plus évolués et plus avancés sur les questions écologiques.
Intéressant ça.
Donc justement, là arrive un nouveau robot, donc un robot vert, et qui promet de mettre en place une solution pour décarboner cette économie. Donc, c'est-à-dire, il va chercher à mettre en place une croissance verte qui consiste à promouvoir un développement économique durable sans altérer l'environnement.
Du green PIB, quoi.
C'est ça. C'est un nouveau mot qu'on pourrait mettre au dictionnaire.
Ouais, on va le ranger à côté des licornes à impact et
oui.
Voilà, pourquoi pas. Je note.
Toujours dans la continuité de cette BD, on a une partie qui est justement, est-ce que la croissance aujourd'hui avec notre côté économique, est-ce qu'elle est durable? Et du coup, justement, notre cher robot vert, il nous dit qu'une croissance qui est viable, elle profite raisonnablement de nos ressources, et pour lui, c'est faisable de mettre ça en place. Donc, il y a un petit exemple, justement, où Doc les emmène tous sur une île, donc c'est une île qui existe réellement, c'est en Australie, elle s'appelle Nauru. Et c'est pendant des années, des habitants ils se sont enrichis en exploitant des ressources de phosphate qui étaient utiles à la création d'engrais.
Ok.
Et on se rend compte qu'aujourd'hui, sur cette île, il y a énormément de pauvreté, vu qu'ils ont utilisé toutes les ressources disponibles, et que du coup, bah, l'économie s'est effondrée, vu qu'il n'y a plus de marché à faire avec ce phosphate.
Ils ont tellement poussé le PIB qu'ils ont tout ruiné.
Bah, ils ont tellement poussé l'économie locale en disant bah, on a des ressources environnementales, le phosphate, qu'on va l'utiliser à nous, pour créer des engrais qu'on va pouvoir vendre à beaucoup de personnes.
Ok.
Et du coup, justement, comme je te disais, bah, le PIB environnemental, là, il n'est pas pris en compte vu que les ressources ont diminué.
Pas cool.
Voilà, c'est pas trop trop cool. Et du coup, toujours sur cette même plage, il y a un monsieur qui s'appelle Denis Meadows, donc c'est un scientifique qui, pour nous, est assez important et qui a réellement existé. Et en fait, ce scientifique, il a mis en danger la croissance économique des pays au détriment de l'environnement. Donc dans la BD, il a créé une machine, et également dans la vraie vie, qui permet de déterminer l'économie de chaque pays dans le temps, en puisant dans les ressources naturelles qu'il avait dans ses sols. Et il a fait un constat, c'est qu'en 2025, pour tous les pays, il va y avoir une chute brutale de l'économie, et que suite à ça, eh ben, il a alerté les politiques en 1970.
T'as dit 2025 ?
2025, oui.
Ouais, c'est dans vraiment pas longtemps là, les gars.
En 1970, c'est ce qu'il avait dit.
Okay.
C'est-à-dire que les choses, si c'était passé comme il se passait en 1970, en 2025, donc c'est-à-dire dans deux ans, l'économie mondiale se serait effondrée. Si rien n'était mis en place.
Et on a mis des trucs en place quand même, rassure-moi.
Oui. Je vais en expliquer à la fin.
Ok.
Je vais arriver quand même sur une bonne note quand même de...
J'espère, parce que là c'est un peu pessimiste quand même. Hein.
Bah, c'est ce qui s'est passé en tout cas à l'époque, c'est qu'il y a certaines personnes qui justement se sont rendues compte qu'il y avait un problème environnemental.
Ok.
Et je pense qu'aujourd'hui, on peut les remercier.
On les remercie.
Et que du coup, quand il a alerté les politiques en 1970, eh ben, il se fit critiquer de tous les sens, notamment parce qu'il ne prenait pas en compte les avancées technologiques que chaque pays allait faire. Et du coup, bah, pour les politiques, son rapport ne valait rien du tout. Et du coup, bah, suite à ça, à cet exemple que je viens d'expliquer, notre cher robot vert aussi nous dit que bah, les avancées technologiques ont un impact et qu'elles peuvent faire évoluer positivement les choses, mais aussi au détriment de l'économie, les faire chuter. Et aussi au détriment de l'environnement, si on les utilise mal. Et du coup, notamment, il illustre cet argument en disant qu'aujourd'hui, bah, les avions sont 70% plus économes en carburant qu'il y a 40 ans. Donc on parle justement d'économie circulaire, donc justement en diminuant les ressources, en faisant une fabrication modérée, donc je parlais plus tard d'éco-conception, je vais expliquer plus tard qu'est-ce que c'est. Aussi au niveau de la consommation, on consomme moins d'énergie et de ressources qu'on pouvait faire il y a 30 ans, et même, je peux dire, il y a moins de 20 ans. Donc, c'est quand même assez récent. Et également aussi, le recyclage.
Donc, justement, ça va mieux.
Comment ?
Donc, ça va mieux.
En tout cas, de ce que Monsieur Robot Vert nous dit, c'est qu'il y a des choses, des avancées technologiques vont permettre de faire évoluer les choses positivement.
Top.
Mais ça, c'est une image, c'est une utopie, c'est ce qu'on voudrait.
Pas cool ça par contre du coup.
Voilà. Et du coup, bah, la question que les personnages se posent, c'est quelle croissance pour demain ? Donc suite à tous ces problèmes, eh ben, on a créé le GIEC, qui est le groupement intercontinental des experts scientifiques sur les questions du climat. Je le fais pas en anglais parce que je suis pas trop en anglais.
J'étais en train d'essayer de remettre les bonnes lettres et je me suis dit, ah, il en manque, il y en a en trop, je suis perdu. Bon, voilà. Ils disent quoi le GIEC du coup ?
Eh ben justement, ce GIEC il va permettre de trouver des solutions pour prévenir le danger. Et ils font d'abord un constat, une première conclusion, qui est que, bah, voilà, comme vous le savez tous, il y a une hausse de la température, du niveau de la mer, des dérèglements climatiques, notamment de la sécheresse, et du coup, on arrive à une instabilité alimentaire.
Pas cool.
Encore une mauvaise nouvelle. Et du coup, bah, la conclusion qu'ils font, c'est qu'il faut changer en moins de 40 ans, et notamment remplacer 80% de notre énergie que l'on consomme. Mais remplacer par quoi ? Ils n'ont pas encore la réponse.
Ouais, c'est ça. Il faut qu'on agisse tout de suite maintenant, c'est mais comment, on ne sait pas.
Ils font remonter les problématiques, mais les solutions, c'est à nous de les trouver avec les différents scientifiques. Donc justement, aujourd'hui, on nous parle que pour chercher des ressources, eh ben, ça coûte de plus en plus cher et que seuls les activités les plus rentables sont encore utilisés, donc notamment pour aller chercher du pétrole parce que ça se revend très cher. On a pu voir notamment au niveau des stations essence ces derniers jours où il y a une flambée des prix et même au niveau de la grande distribution.
Oui.
Où, le coût de la vie devient de plus en plus cher.
C'est ça. Tout le monde, en fait.
C'est ça. Et du coup, on a notre cher robot vert qui, tout content, revient et nous dit que, en mettant en place une transition écologique, donc, les engagements que chaque pays ont pu signer, notamment lors des accords de Paris, et en respectant leurs objectifs qui est de diminuer leur impact carbone, eh ben, ils vont diminuer les imports, par exemple, et donc participer à une économie plus locale et donc plus vertueuse. Sur le papier, c'est génial, on se dit, on peut foncer, et justement, nos personnages se disent, pourquoi est-ce qu'on met pas ça en place ?
Et comme d'hab, la différence entre le papier et le réel,
il y a une grosse différence entre la théorie et le pratique. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a besoin d'énergie pour cette transition ? Donc, toujours dans la BD, nos personnages principaux vont visiter la France en 2100. Donc, si on écoutait ce qui s'était passé sur le papier, ils se rendent compte que c'est le désert total.
Ça, c'est pas bien.
Voilà, c'est le chaos. C'est vraiment le désert total. Et du coup, ils essaient d'aider les villageois sur place, notamment en proposant de mettre des énergies vertes pour développer l'énergie sur place. Pour notamment diminuer les énergies qui sont polluantes, vu que il y a plus de pétrole et du coup ils se battent un peu pour avoir les quelques gouttes de pétrole qui restent. Et que malgré sur le papier ce soit génial, ils se rendent compte qu'il y a quand même des questions d'ordre environnemental, parce que s'il n'y a pas de vent, on peut pas faire fonctionner les éoliennes, s'il n'y a pas d'eau, ça va être compliqué pour les barrages hydrauliques. Et du coup, toutes ces questions se posent et c'est compliqué de quand même mettre ça en place dans chaque endroit. Et il y a aussi des questions de performance qui se posent, notamment aujourd'hui, un réacteur nucléaire, en termes de production d'énergie, c'est équivalent à 700 éoliennes.
Ce qui est bien, quoi, non ?
Ce qui est bien, mais si on cherche justement à réduire nos activités nucléaires...
Faut plus d'éoliennes,
mais surtout, est-ce qu'on a la place de mettre autant d'éoliennes ?
C'est une question aussi...
Voilà, sur le papier, c'est génial, mais comment ça peut se concrétiser ?
C'est quoi le moins pire des deux ?
C'est ça. Qu'est-ce qui a le moins d'impact ? Et du coup, on parle également aussi de la solution de l'hydrogène, qui est une nouvelle solution qui est apparue il y a quelques années. Donc, on commence à mettre ça dans les voitures, donc des bonbonnes d'hydrogène. Mais il y a aussi de nombreux inconvénients. Notamment, l'hydrogène, ça n'existe pas à l'état naturel. Il faut la produire. Et la production, il faut 95% d'énergie fossile pour produire de l'hydrogène. Donc, justement, on ne trouve pas une nouvelle solution. On décale le problème.
C'est ça, parce qu'on va utiliser des énergies fossiles pour faire un truc clean.
C'est ça, on cache le problème. Et du coup, suite à ça, il y a des défis de croissance verte. On parle d'éco-modernisme. Donc, c'est le fait d'utiliser des énergies renouvelables pour extraire des métaux, par exemple. Et du coup, par la suite, de recycler ces machines d'extraction pour économiser l'énergie nécessaire à en créer d'autres. Donc, c'est aussi lié à l'éco-conception. Et c'est le principe de l'économie circulaire. C'est-à-dire que rien ne se jette, tout se transforme.
Ok. Et moins on jette, moins ça nous coûte, quoi.
C'est ça, parce qu'on a, ça coûte de l'argent de créer quelque chose, donc autant le réutiliser, et que ça coûte moins cher de le réutiliser dans autre chose. Mais il y a aussi encore un nouveau problème, c'est est-ce que tout est recyclable? Et que, en, par exemple, en 2017, pour un téléphone, il y a eu 100 milliards de ressources qui ont été extraites des téléphones usés, et il y a quand même 22 milliards de ces 100 milliards qui étaient irrécupérables. Donc, 22%, ce qui est quand même assez important, c'est presque un quart.
Arrêtez de changer vos téléphones.
C'est ça.
Utilisez-les jusqu'au bout.
Ça. Voilà. Et si vous n'en avez plus besoin, il y a des bornes qui sont mises à disposition et ce sera recyclé au maximum et ça peut servir d'autres personnes.
Économie circulaire. Tout à fait. On y est toujours.
Voilà. Et du coup, toujours dans cette économie circulaire, eh ben, il faut revoir tout le cycle de vie d'un produit, donc de sa conception, l'éco-conception, jusqu'à son recyclage et son réemploi.
On pousse au bout.
Voilà. Et du coup, la fin de cette BD se termine par est-ce qu'il faut s'adapter ou est-ce qu'il faut subir? Et que du coup, malgré l'évolution positive de la vie humaine en général, que ce soit sur le côté technologique notamment ou sur la santé, eh ben, y a une menace quand même de voir notre système s'effondrer. C'est-à-dire que nous avons battu notre société sur la production de richesses sans prendre en compte l'impact que cette dernière a avec l'épuisement des ressources dans nos sols notamment. Et du coup, bah, tout notre mode de vie est remis en question. Et du coup, bah, à la fin de la BD, les personnages, au lieu de tous s'aider à trouver des solutions, eh ben, ils vont tous s'accuser mutuellement pour éviter le problème. Ce sera la faute d'un tel ou un tel, parce qu'ils consomment trop, parce qu'ils utilisent trop de choses, etc. Et au lieu de trouver une solution ensemble, eh ben, on va dire, lui, il consomme plus que moi, donc c'est d'abord à lui de réagir, et moi, je réagirai après. Et à la fin de cette BD, eh ben, est-ce qu'une autre voie est possible? Et justement, la BD, ça nous permet de nous remettre en question. Que malgré que des décisions soient prises au niveau politique, est-ce qu'il faut attendre qu'elles soient prises? Est-ce que nous, à notre échelle, on peut pas agir et du coup participer à un avenir meilleur?
Mais je vote pour.
Merci. En tout cas, voilà, c'est ce qui est proposé et c'est ce qui m'a intéressé justement dans cette BD. Ça nous permet de nous faire réfléchir parce que même si au niveau politique, il y a des décisions qui sont prises, qu'on a la chance d'avoir la mise en place du GIEC qui a sorti récemment son rapport et qui explique qu'il y a une hausse de la température et que bah c'est la catastrophe, hein, c'est bientôt l'apocalypse si on fait rien. Et bah en fait, on peut se rendre compte qu'à notre échelle, on peut chacun faire quelque chose, notamment partir, justement éviter de partir dans des pays trop loin si on n'a pas forcément besoin, prendre le train au lieu de l'avion, c'est un impact carbone moindre que l'avion. Également, quand on achète des produits, privilégier plutôt le vrac que acheter du tout emballé. Parce que c'est emballé, on va rien en faire. Et en plus, quand on achète un produit, on paye l'emballage alors qu'on va le jeter par la suite.
C'est clair.
Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent et il y a plein de choses qui sont mises en place. Et du coup, bah voilà, à nous de faire les bons choix.
On va rester là-dessus. À nous de faire les bons choix et puis surtout de ne pas attendre que les autres agissent avant nous. Parce que sinon, on va tous se regarder comme dans un film de Sergio Leone et personne ne va rien avancer. Ce qui sera complètement nul.
C'est ça, on va tous se regarder dans le blanc des yeux et... Eh ben, ce sera malheureusement la fin du monde, hein, malheureusement. Si on fait rien, on arrivera là.
Pas cool. Corentin, du coup, merci de cette chronique. J'espère que ça t'a plu de concevoir ça. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très fourni, très travaillé, plus que ce que moi j'ai pu le faire. Parce qu'effectivement, il y a plus de détails, il y a plus d'informations techniques. On sent que ça t'a plu.
Tout à fait. Bah, merci en tout cas de m'avoir proposé cette BD. Et oui, elle est hyper intéressante pour moi, vu que c'est sur le côté environnemental. Et tous les chiffres, tous les tableaux, toutes les images qui sont proposées, il y a les sources à la fin de cette BD. Donc, c'est pas quelque chose qui est inventé par Anthony Auffray. C'est quelque chose de réel. Et bah, je pense que voilà, elle est disponible pour les jeunes et les adultes. Et je pense qu'elle est intéressante à lire pour tout le monde, pour prendre conscience de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, c'est une BD qui est d'autant plus d'actualité qu'on a le rapport du GIEC qui est sorti, quoi.
C'est ça, tout à fait.
Eh ben super. Est-ce que tu peux redonner les références, Corentin, s'il te plaît?
Tout à fait. Donc c'est Le Mirage de la Croissance Verte, écrit et dessiné par Anthony Auffray, de l'édition Delcourt et la collection Octopus, et qui est paru en mai 2022.
Eh ben merci beaucoup. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec une chanson un peu de circonstance avec Mortel Adèle, qui est une BD plutôt pour jeunes. Ils ont eu un album qui a été adapté par Altbert. Et il y a une chanson qui s'appelle Pas de pitié pour les Nasbrock et qui incite en fait les adultes à faire de l'écologie ou au moins à réagir sur ce qui se passe sur la planète. On se retrouve juste après sur le 101.5 de Radio G.
dit au repas. Ces tornades qui font. Dites donc les parents. Non mais c'est quoi cette histoire? On va découvrir quand. Le contenu de la boîte noire. Ensemble. Pas de pitié pour les Nasbrock. On n'en veut pas de cette époque. Pas de pitié pour les Nasbrock. Vous ne savez qu'interdire. Je sais ce que vous vous dites. Elle est vénère tout le temps. C'est pas parce que je suis petite que je dois suivre le courant. Pas de pitié pour les Nasbrock. On n'en veut pas de cette époque. Pas de pitié pour les Nasbrock. Il faut un électro.
Électrochoc sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Vous êtes toujours en la compagnie de Seb et de Corentin. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Si c'est pas le cas, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Si vous nous rejoignez, on va toujours parler de bande dessinée. On a fait une partie écologie en début d'émission, alors que c'est plutôt traditionnellement la partie jeunesse. Du coup, on va faire la partie jeunesse maintenant, avec une petite BD publiée chez BD Kids, qui est assez sympatoche, avec une couverture bien rose flashy. Je connais pas le Pantone de ça, mais voilà, ça brille dans le noir, j'imagine.
C'est ça, dans les rayons, ça se voit à des kilomètres.
C'est ça. C'est une BD, une toute petite BD qui s'appelle Chocochat et moi. C'est d'Alexandre Arlène et Fabien Octolambert. Alexandre Arlène, il a publié les Bloody Harry, qui sont des parodies d'Harry Potter, qui sont pas forcément destinées aux petits enfants. Alors que là, cette série-là est beaucoup plus drôle. Chocochat, c'est un héros mort de lire qu'on doit pouvoir trouver dans les bouquins toboggans. Je sais pas si ça vous parle, c'est des trucs pour les tout petits. Enfin bref. De quoi ça parle, à ton avis, Chocochat et moi?
Déjà, je vois un chat, deux chats, et ouais. De chocolat et de moi.
Donc, ouais, ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. En gros, Chocochat et moi, c'est l'histoire d'un chat qui, un jour, va découvrir un petit humain abandonné dans des poubelles. Et il va regarder sa maman, il fait « Maman, maman, est-ce qu'on peut adopter le petit humain ?» Ça vous rappelle les situations?
Pas mal.
Et du coup, ce petit humain, la maman, elle va finir par céder et le petit humain va découvrir ce que c'est qu'une vie de chat. D'accord. C'est très rigolo. C'est un dessin qui est très mignon, très, très cartoon, avec des grimaces, des grosses têtes. Je te le passe. Comme ça, tu vas pouvoir regarder en même temps. C'est très drôle. C'est pas de la blague hyper subtile, hein, mais c'est pas ce qu'on en attend. C'est complètement qu'est-ce que c'est que si un humain découvrait des chats qui ont les mêmes obligations que des humains. C'est un enfant chat, Chocochat, et du coup il va à l'école. Mais à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On fait la sieste. On n'a pas le droit d'être en retard à l'école parce que si on est en retard, on loupe la récré.
D'accord.
On mange des sandwichs aux souris.
Ah oui.
Et donc ce petit garçon en fait découvre toute la vie de chat à travers le miroir déformant en fait de ces chats mi-humains, mi-chats.
D'accord. Et du coup ce garçon se comporte quand même comme un garçon. C'est-à-dire qu'on n'inverse pas la.
C'est aussi tout le paradoxe du truc, c'est que lui il a une vie qui était complètement humaine en fait à la base. Quand on lui propose d'aller aux toilettes, je divulgue une blague, mais on lui montre une litière. Il fait non, moi je fais pipi dans des toilettes là où il y a de la faïence et puis de l'eau. Puis t'as les chats qui font ah ça, mais ça c'est la fontaine pour qu'on boive. Côté paradoxal du truc, c'est complètement barré. C'est très drôle. ça se lit vite. C'est, alors c'est, techniquement, c'est un public jusqu'à 7-8 ans, ça marche très très bien. Au-delà, bon, ça dépend de la maturité de l'enfant. Ils vont quand même se marrer, mais c'est...
c'est comme un public assez visé.
Ouais, c'est un public très jeune. Après, c'est de la blague potache, c'est de la blague rigolote. Il y a pas de violence, il y a pas de, il y a pas de sexualité, il y a pas de, c'est très très drôle. Il y a des vannes jusque dans le petit sticker avec marqué garantie sans poils de chat sur la couverture. Non, ça marche très bien et c'est très très drôle. Je pense que c'est dans cette petite collection là en fait, BD Kids. Souvent, ce sont des collections avec plusieurs albums à la suite. Et techniquement, je pense que ça va trop bien marcher parce que c'est très drôle.
Ouais, et puis surtout, il n'a pas beaucoup de pages.
Il n'y a pas beaucoup de pages, mais après, il faut s'adapter aussi au jeune public. Oui. Si tu mets, il y a quand même 55 pages.
Ah ouais, ok.
Quand même.
Ah ouais, parce que quand je compare avec moi la BD, on était quand même à 150 pages.
Ben, il y en a 100 de plus.
Ah ouais. Je voyais moins de pages que ça.
Mais il est plus petit, il est carré, il y a un petit format carré comme ça. C'est pratique, en fait, ils se sont adaptés pour les mains des enfants, pour le nombre de pages, pour que ça se passe bien. Enfin, c'est un petit album bien pratique.
Okay.
Je vous redonne les références, c'est très drôle. C'est Choco Chat et moi, c'est d'Alexandre Arlen et Fabien Octolambert, et c'est publié aux éditions BD Kids. On va continuer dans la partie un peu humour, pas forcément jeunesse, mais plutôt humour, et même les enfants peuvent le lire, avec un Spirou. Tu connais Spirou ?
Oui, qui ne connaît pas Spirou ?
Je le demande, si vous ne connaissez pas Spirou chez vous, chers auditeurs, levez la main. Voilà, donc tout le monde connaît Spirou.
Oui.
Parce qu'on n'a pas vu les auditeurs lever la main. C'est méta comme truc, c'est un peu nul, mais c'est des blagues qui me font rire, moi. Ça fait un petit moment en fait que les éditions Dupuis ont commencé à faire les Spirou 2 et là on a un Spirou qui s'appelle Spirou chez les fous, c'est de Jules et Libon, donc publié bien entendu aux éditions Dupuis, et c'est un Spirou complètement bordé d'humour. Il y en a partout dedans, ça c'est assez dingo. Le grand copain de Spirou s'appelle comment ?
Alors non, je connais Spirou.
Ah oui,
après,
d'accord.
J'ai jamais dit que j'ai lu Spirou.
Ah, souvent, c'est des aventures de Spirou et...
Alors non, je pourrais pas te dire.
Bon, le grand pote de Spirou, c'est Fantasio. Fantasio est un reporter. Ah bah oui. Et là, tu fais, ah bah oui.
Bah oui, c'était logique.
Forcément. Oui. Et bien du coup, en fait, Fantasio, ça fait au moins une semaine qu'il a pas donné de nouvelles à Spirou. Et Spirou, bah, ça l'inquiète pas mal. Donc, il va aller à la recherche de ce Fantasio qui aurait été vu pour la dernière fois Angoulême. Et là, il va découvrir que Fantasio souffre du syndrome d'Angoulême.
Qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Angoulême ?
Alors, est-ce que tu connais le syndrome de Stendhal ?
Tu me l'avais expliqué au travail.
Le syndrome de Jérusalem.
Je vais te laisser expliquer.
En gros, le syndrome de Stendhal et le syndrome de Jérusalem sont deux syndromes des états mentaux qui vont se mettre en branle quand on va se retrouver soit à Florence, puisqu'on est submergé par toutes les œuvres d'art qu'il y a, et ça nous crée un trouble mental, ou Jérusalem, qui est une ville tellement chargée d'histoire religieuse que ça nous met des troubles. Eh bien, Angoulême, cité de la bande dessinée, il y a un syndrome d'Angoulême qui fait que Fantasio se prend pour le capitaine Haddock. Et du coup, Spirou va être obligé d'aller chercher son ami Fantasio dans un asile de fous qui regroupe que des personnes qui souffrent de ce syndrome d'Angoulême. Donc plein de gens qui sont persuadés d'être des personnages de BD. Je vais pas aller plus loin parce que la BD a plein de blagues, plein de petites choses dedans. Au départ, je savais pas trop ce que ça allait donner. Je l'ai ouvert, j'ai lu 3 pages et je me suis marré comme une baleine en fait sur des vannes toutes pourries. Attention, c'est quand je dis toutes pourries, des vannes, si elles font rire, c'est qu'elles sont réussies. Hein. Mais des vannes tellement potaches qu'elles ont surgi comme ça, qu'elles m'ont beaucoup fait rire. Et je vous laisserai les découvrir. Mais les gens qui se prennent pour des personnages de BD, ils sont vraiment incarnés dans les personnages de BD. Ils sont vraiment au premier degré.
Jusqu'à aller dans la mimique du personnage de la BD. Ou non, ils restent quand même eux-mêmes.
Ils vont jusque dans la mimique du personnage. Je vous gâche une petite vanne. Au détour d'une page, on a un groupe de personnes qui arrivent avec une chaussette sur la tête. Et ils se prennent pour des schtroumpfs. C'est tellement bête que moi, je suis tombé là-dessus, j'ai fait ah, les schtroumpfs. J'ai même pas eu besoin de les entendre parler, que j'ai fait mentalement, c'est des mecs qui se prennent pour les schtroumpfs. Ce qui est très drôle. Mais c'est, ça marche bien en fait. Alors on retrouve le style graphique en fait de Libon. Ça se trouve c'est lui qui a fait le scénar. Je suis en train de dire des bêtises. Je retrouve ce style graphique en fait qui assez rond, assez humoristique, qui marche hyper bien dans le côté blague cartoon. On a Spip qui est l'écureuil de compagnie de Spirou, qui a une tronche pas possible avec des yeux hyper globuleux, qui est juste drôle rien qu'à regarder en fait. C'est ça qui fonctionne hyper bien. Et puis l'histoire va quand même poser des questions un peu méta sur qu'est-ce que c'est que la BD, qu'est-ce que un personnage de BD. Ça pousse un petit peu le curseur si on veut vraiment aller plus loin, même si c'est la vanne quand même qui prime sur le livre, mais ça marche très très bien, c'est franchement très drôle et ça roule super quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous poiler un petit peu, un petit Spirou chez les fous de Jules et Libon, publié aux éditions Dupuis. Voilà, vous allez vous marrer, vous avez passé un bon moment. Je ferai qu'un seul reproche à cet album, comme beaucoup d'albums qui parlent d'humour, c'est que quand on le finit, on a l'impression que ça s'est passé hyper vite, alors qu'en fait, t'as quand même un certain nombre de pages. Mais voilà. Et puis y a pas vraiment de fin en fait sur cet album-là. Tu sais pas vraiment, t'as pas vraiment de solution.
Ouais, c'est juste là en fait pour faire des vannes que plus pour raconter une histoire.
Complètement. Ouais. On a une histoire qui se tient dans l'album, hein, mais. On s'en fout un peu tant qu'il y a des vannes.
Ouais, l'idée première, c'est vraiment de faire des vannes.
Ouais, c'est ça. Il est 19h38 sur le 101.5 de Radio G. Je vous propose de faire une autre pause musicale. Je suis resté dans les thématiques BD. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, je ne l'ai pas écouté avant. Ça s'appelle « Ils sont fous, ces humains ». C'est de M et c'est issu de la bande-son d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Et c'est une chanson qu'il a fait en duo avec Biflo et Oli. Et on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Ta folie, au contraire, c'est ce qui te rend humain. La vie est en colère, on se le disait gamin. Pour moi t'es comme un frère, tous les deux on ne fait qu'un. Sur les chemins d'hier, en chantant ce refrain, ils s'en foutent ces humains, ils s'en foutent ces humains, ils s'en foutent ces humains.
Son histoire, il suffira d'attendre qui voudra y croire. Dans les tours de béton ou dans les tours d'ivoire, les chemins se croisent et sont contradictoires. On trouve des vrais frères de combat, comme si le destin l'avait écrit. Dans tous les cas, il n'y aura que l'amour qui nous sauvera. Et j'y tombais dedans quand j'étais petit. Ils s'en foutent, ces humains.
On a mis le monde à l'envers.
Ils s'en foutent, ces humains.
On a plus les pieds sur terre.
Ils s'en foutent, ces humains.
Tout le monde veut manger sa part du gâteau. C'est pas où la paix, j'ai raté le panneau. Faut de la lumière, même en hiver.
Il serait temps que l'humain change une espèce d'animal étrange, obsédé par les différences qui le séparent de l'essentiel. Il voudrait mener la danse, il veut effacer les distances qui donnera les évidences à ces questions existentielles. Depuis la nuit des temps, on essaie d'avancer sans voix. Dans tous les camps, on retient jamais les défaites mais les victoires. On casse et on répare, on s'arrête, on repart, on rêve d'autre part.
Tant qu'on s'aime, c'est pas trop tard.
Ils sont fous, ces humains.
On a mis le monde à l'envers.
Ils sont fous, ces humains. Ces humains,
fous,
ils s'en foutent, ces humains.
sont fous ces humains. On reste dans la même thématique, hein, écologique. Non ?
Si, si, je regardais juste la fin de la musique. Pardon.
Tu regardais la fin de la musique. Eh bien, ne zappez pas, restez sur Radio G, n'allez pas voir la fin de la musique sur YouTube où vous voulez. C'est la magie du direct. Restez avec nous, s'il vous plaît.
Merci.
Voilà. J'ai deux BD un peu plus pour les plus grands maintenant. Une BD, t'étais là quand je l'ai amené, mais je sais pas si on en avait parlé.
Non, on n'a pas parlé.
On n'en a pas parlé, c'est bien ça. Ouais. Donc je répare un petit souci. Une BD qui s'appelle Forgotten Blade, c'est publié aux éditions Ankama, c'est de Zishun, je suis désolé pour son nom, et de Tony Feijula, je suis aussi désolé pour son nom, je n'ai pas de traducteur intégré, donc je prononce comme je pense que ça se prononce, et n'hésitez pas à me corriger si vous le souhaitez. Forgotten Blade, c'est une dystopie, un monde, enfin c'est même pas forcément une dystopie, c'est un monde imaginaire, régi par une grande religion. Et on va suivre deux personnes dans cette BD. Une personne qui s'appelle Rusa, qui s'appelle Dee le Crasseux, hein, c'est son surnom, le Crasseux, c'est classe, ça fait plaisir. Et la particularité de Rusa, c'est que c'est le mec le plus fort de tout le monde. Il a aucun ennemi qui n'est capable de le vaincre, et il est un peu désabusé parce que il s'ennuie un peu, hein, quand même, le mec. Donc il est toujours à la recherche de challenge de plus en plus poussé. Et puis on va avoir Noah, une maman qui a perdu ses enfants par la faute de l'église. De cette église-là, hein, attention, je précise, on parle toujours de ce monde-là, et qui, elle, n'a qu'une seule envie, se venger. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh ben, elle va le demander à Rusa de l'aider à se venger en tuant le dieu. Ouais, Rusa, lui, se dit « Ok, t'es cinglé, mais effectivement, il n'y a pas de plus gros challenge que d'aller buter un dieu, donc allez, go, on y va. »
C'est ça. Puis comme on a pu voir sur la quatrième de couverture, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tuer Dieu.
Tout à fait. C'est pas tous les jours.
C'est ça.
Un ouvrage qui est quand même un certain nombre de pages. Je suis toujours perdu sur les nombres de pages. Il y en a. Je vais l'avoir quelque part. 176. Il y a 176 pages dans cette aventure. C'est une aventure. Alors épique. C'est vraiment le mot pour qualifier Forgotten Blade. C'est vraiment un bouquin qui va vous emporter dans des choses qui sont grandioses. Au cours de ces 176 pages, on n'a aucun temps mort visuel. C'en est même presque fatigant un petit peu pour les yeux, mais il y en a partout. C'est graphiquement très poussé. Il y a des mises en page qui sont parfois un petit peu déstabilisantes, mais visuellement, j'ai trouvé que c'était magnifique. Il y a des designs qui sont très particuliers, mais ça marche bien. On a vraiment beaucoup d'émotions, on a vraiment beaucoup de choses qui sont chargées, rien qu'à cause des couleurs en fait utilisées dans l'album. On est vraiment dépaysé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont propulsés dans cet album-là et qui marche bien. L'action est très lisible. Il y a beaucoup de bagarres parce que Rusa, c'est pas quelqu'un de très très subtil. On va dire qu'il négocie comme Corbin Dallas dans Cinquième Élément, c'est-à-dire qu'il tape et puis après il demande si l'autre veut le négocier encore. Et ça marche bien. C'est vraiment super. On a beaucoup de compassion pour ces personnages-là qui sont des personnages qui ont été complètement brisés par un système et qui vont, attention, micro spoiler, se rendre compte que tout n'est pas exactement comme ils l'auraient imaginé. Il y a un système dans ce monde avec je ne me rappelle plus vraiment du mot, des rivières en fait qui sont liées à certaines choses. Il y a rivière des âmes et rivière des et ça a un point de départ. Et en allant affronter ce dieu, ils vont découvrir quel est ce point de départ.
Ok, intéressant.
Et c'est vraiment très très bien. C'est graphiquement, c'est un truc de dingue. Moi, rien que la couverture, elle donne envie. Enfin, je sais pas.
T'en prends plein les yeux. T'as la couleur de partout.
Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que la maquette faite par Ankama, je ne sais pas si la version US ou celle du comics à l'origine reprend cette façon de faire, mais la couverture, elle est blanche et on a vraiment le visuel au centre et ça rehausse vraiment, ça fait permet aux couleurs de claquer. Je pense que ça n'aurait pas été aussi classieux avec un fond noir. Donc ça marche vraiment très très bien. Donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est une petite pépite, je trouve. C'est un one shot. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc
Il y a pas de suite prévue.
Pas à ma connaissance. Okay. On a des trucs stylés. Regarde-moi ça.
Ah, cette tornade, elle est magnifique.
J'aimerais bien en fait que vous puissiez voir grâce à moi les images, mais les mots me manquent en fait pour vous décrire la maestria graphique en fait de cet ouvrage. Il y a une espèce de langage qu'on ne comprend pas non plus. Il y a tellement de choses dedans que c'est vraiment dingue. Donc,
je serais curieux de savoir le temps qu'il a mis pour dessiner toutes ces plaquettes. Je pense que ça va être assez impressionnant.
Eh ben, bonne question. Puis je ne sais pas, parce que maintenant, on en discutait avec un ami il n'y a pas très longtemps. C'est hyper dur, en fait, de deviner ce qui est fait à la tablette graphique ou ce qui est fait au crayon, on va dire, tradi. Et des fois, il y a un peu des deux. Donc, là, vu la façon, la matière qu'il y a, j'aurais tendance à dire que c'est du tradi.
Tout est faisable.
Tout est faisable. Tout est question de temps et de talent. Je vous redonne les références. Il s'agissait de Forgotten Blade, de Tejun et de Tony Feijula. Et c'est publié aux éditions Ankama. Et, allez-y, parce que vraiment, le rapport qualité-prix, il n'y a pas tortillé. C'est vraiment un truc. C'est assez chambé. On va rester un peu dans l'actu. Il y a John Wick 4 qui est sorti au cinéma. Donc, il n'y a pas de BD de John Wick à ma connaissance.
Non, ça me dit rien.
Mais il y a un petit moment, Keanu Reeves avait initié un projet de BD qui a fait un financement participatif qui a bien marché. Il s'est fait accompagner d'auteurs de renom comme Mankind, Ron Garney et Bill Crabtree. Et ce projet avait pour doux nom...
C'est imprononçable.
Voilà, en fait, c'est marqué à l'intérieur. On nous l'explique. Il faut le prononcer Berserker.
Eh ouais.
Tu le sais pas, tu peux pas, mais voilà. Donc, pour illustrer un peu mon propos, imaginez que sur la couverture, il y a marqué BRZRKR. Voilà. Alors, si tu le prononces comme tu devrais, c'est Berserker. Alors qu'en fait, c'est Berserker.
C'est ça. T'as l'impression de revenir chez le médecin, chez le dentiste.
Ah, c'est ça, oui. Ah yes, ah je l'avais pas vu celle-là. Et puis c'est publié aux éditions Delcourt. Bon, on va recentrer un peu le débat. Fini d'aller chez le dentiste. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de B, parce qu'il a pas vraiment de nom, un personnage qui est incarné par les traits de Keanu Reeves, qui est un mercenaire ultra violent, un berserker comme on pourrait l'appeler hein, dans la mythologie nordique, ces guerriers qui avaient tendance à tout défoncer jusqu'à ce que soit ils tombent de fatigue, soit il n'y ait plus d'adversaires en face. Et il est employé par le gouvernement de on ne sait pas quel pays pour aller boucher les oreilles de vos enfants, botter les culs, hein. Et il le fait de manière plutôt efficace et expéditive, et de manière un peu beaucoup sale même. Parce qu'il a tendance à voilà être très créatif dans sa manière de défaire ses adversaires. Il peut prendre un bout de l'un pour taper sur l'autre, hein, c'est littéralement parlant. Ouais, Corentin fait la grimace en fait dans le parcours.
Bah, ça me fait penser un peu à Deadpool, quoi.
Il y a un côté un peu Deadpool. Mais pourquoi il se permet de faire ça en fait, ce B? Eh ben, c'est parce qu'il est mi-homme, mi-dieu. Il est immortel, et pour lui, être immortel, c'est être l'équivalent d'un dieu. Et du coup, il a un problème, c'est qu'il essaie de comprendre qui il est, pourquoi il fait ça, quelles sont ses origines. Et au fur et à mesure de l'avancée, il est suivi par une scientifique, on ne sait pas vraiment quelles sont ses attentions au début, qui l'aide à se rappeler de certains événements, lui qui a pourtant une mémoire infaillible. Il se rappelle de tout, de sa naissance, de tous les événements passés, mais il y a des éléments qu'il a mentalement peut-être un petit peu éludés. Et du coup, au fur et à mesure des bagarres et des missions qu'il va faire, on va découvrir et se plonger dans son passé, dans ses origines, dans qui il est, dans où il vient, Et c'est vraiment hyper intéressant en fait à découvrir. Donc c'est voilà, il y a beaucoup d'action. Hein, je pense que Keanu Reeves a quand même pris beaucoup de plaisir à imaginer des scènes comme on peut les voir. Parce que comme je vous le disais, hein, vraiment c'est très créatif. On pense que aussi les scènes de bagarre de John Wick ont pu inspirer. On rappelle que le mec est quand même capable d'utiliser un cheval ou un stylo pour défaire ses adversaires. C'est pas courant, hein.
Non, c'est pas tous les jours qu'on voit ça.
Voilà, là, main nue, en fait, il est capable de faire plus de choses que ça et c'est tout aussi créatif.
Ah bah totalement. En plus, j'ai vu le dessinateur, c'est Ron Garnet, celui qui a fait Captain America et Wolverine.
Et ouais. Et puis Matt King, qui est un excellent scénariste, donc ça fait plein de bonnes personnes en dans une bonne BD et ça marche bien. J'avoue qu'au départ, le projet, je savais pas trop de quoi ça allait parler. Mais ça marche bien.
C'est sûr. Bah déjà, quand tu vois la BD et que tu vois le titre, qui est imprononçable,
Le titre a été enfin, je pense qu'ils ont collé tous les éléments qu'ils allaient vouloir directement au moment de la création. Et je sais plus comment ils ont. Alors, si vous souhaitez. Dedans à la fin, j'allais y venir, j'avais oublié. C'est qu'en fait à la fin, il y a un petit cahier. Je suis pas persuadé qu'il soit exclusif à la première édition, mais il y a une sorte de director's cut en fait où Keanu Reeves et Matt Kint discutent de la façon dont ils ont créé Berserker. C'est abominable à dire. Et du coup, il a proposé plein de versions du nom, mais c'est celui-là qui est revenu parce que c'était la version la plus cool qu'ils aient trouvé. Je pense que le cool, c'était vraiment le maître mot en fait de la création de cet ouvrage-là. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous voulez avoir l'acteur qui est censé être le plus sympa, devenir le personnage de BD le moins sympa de l'univers. Voilà,
personnage le plus violent de l'univers.
Ouais, violent et défiguré et tout ce qu'on veut. Mais bon, après, un bras qui tombe, ça repousse, hein, il paraît.
Ouais, pas mal.
Non, mais voilà, hein, lui, ça repousse. Pas nous, hein, je précise.
Non.
Non, mais voilà, c'est une bonne surprise qui marche plutôt bien. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est cool, ça défouraille. Si vous aimez pas la bidoche, si vous êtes allergique à la violence, laissez-la dans la bibliothèque. C'est pas la peine de prendre. Je vous redonne les références, c'est Keanu Reeves, Matt Kint, Ron Garnet et Bill Crabtree, publié aux éditions Delcourt, et c'est Berserker, écrit B-R-Z-R-K-R, et ça ne comptera pas au Scrabble, je suis désolé pour vous. Il nous reste une toute petite minute, enfin un petit peu moins, tu vois là, pour ceux qui ne font pas de la radio, on est dans cette petite intervalle où on se dit, est-ce que j'ai le temps de faire autre chose ou est-ce qu'il vaut mieux que je meuble plutôt que de mal parler d'un album? Allez, on va mal parler d'un album. Non, je plaisante. On va en parler de manière assez rapide. Je vais vous parler de Saison Maudite, un double manga, un manga publié en deux tomes aux éditions Pika d'Azuka Konichi. C'est pas vraiment ma tasse de thé à la base, hein, ce type de manga-là, qui a plutôt une consonance shoujo, mais ça parle de choses hyper intéressantes. Ça parle d'une jeune femme qui va sortir avec l'amoureux de sa sœur décédée. Alors, du coup, elle s'en veut, en fait, d'être amoureuse de l'amoureux de sa sœur décédée, et son amoureux, en fait, s'en veut aussi. Donc, ça parle de deuil. Ça parle de mariage arrangé, puisque si elle sortait avec ce monsieur-là avant son décès, c'est simplement parce que c'était un mariage entre familles japonaises. Et on se rend compte assez vite que ils avaient des sentiments l'un pour l'autre au moment où le mariage était arrangé, en fait. Et que ces sentiments-là sont devenus des sentiments un peu paradoxaux, un peu compliqués, et que c'est hyper intéressant d'avoir ces deux tomes-là de découvrir et de se dire, moi, qu'est-ce que j'aurais fait à cette place-là? Est-ce que j'aurais comprimé mes sentiments pour quelqu'un que j'aime parce que c'était l'ancien amour de ma sœur décédée, ou est-ce que j'y aurais été quand même? Est-ce que... Puis il y a plein de petits ressorts scénaristiques qui sont intéressants, notamment la découverte du journal intime de la sœur en question, qui vont rajouter une petite pièce dans la machine et dans la réflexion. Donc on est sur un shoujo, mais on est aussi sur donc un manga pour filles, hein, je fais les guillemets avec les doigts, hein, parce que j'aime pas trop cette affection, mais c'est un manga de romance, mais avec une thématique sur le deuil et la réflexion de comment on peut passer outre le deuil et qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus. Donc c'est hyper intéressant, je trouvais que c'était une thématique qu'on n'a pas souvent et ça marche bien. Pardon. Graphiquement, on est sur des personnages qui sont très typés shoujo, plutôt filiformes, je sais pas comment dire, très shoujo, je les trouve très lisses en fait, les personnages shoujo en règle générale. Il y a peu de détails en fait sur le graphisme, ce qui veut pas dire que le graphisme n'est pas détaillé, mais les personnages sont plutôt lisses dans leur traitement, même si leur psychologie elle est bien travaillée là-dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Puis vous allez peut-être me poser la question, mais du coup, pourquoi ça s'appelle les saisons maudites ?
Pourquoi ça s'appelle les saisons maudites ?
Oh, quelle spontanéité !
Tu vois ça ?
Ça s'appelle saisons maudites parce qu'en fait, les deux personnages, alors tous les personnages, ont le nom d'une saison, en fait.
D'accord.
Et c'est une sorte de malédiction. Alors, je ne vous redonne pas les noms parce que je suis nul en japonais, mais voilà, c'est pour ça que ça s'appelle saisons maudites.
Ok.
Donc, une série intéressante, courte, en deux tomes. C'est rare, donc autant le souligner, et qui apporte des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent traitées en manga, encore moins quand traitées de manière intelligente. Hop. That's all, folks. Il est 19h58 sur le 101.5 de Radio G. Vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je remercie encore une fois Corentin de m'avoir accompagné dans cette émission et puis d'avoir accepté ce petit challenge.
Et moi je te remercie Sébastien pour ce challenge.
Est-ce que c'est un challenge que tu relèverais une autre fois ?
Tout à fait.
Oh, tu sais de quoi tu vas parler après, la prochaine fois ?
Oui, mais je ne vais pas dire trop.
On no va spoil.
Laisser, voilà.
Ok, super. Eh bien écoutez, vous pourrez retrouver ce podcast dans quelques instants sur le www.radio-g.fr et puis, si vous écoutez un podcast, ce sera quand vous voudrez. Et puis on se retrouve dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Oh, la petite schtoumpf.
Batman. Trop vite. Venez pas, faites-moi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.
Radio G. 101.5 FM. Radio-G.fr.
Vous êtes à l'écoute de...